Delpech est à Somain pour prêcher là-bas dans le nord. Et nous sommes heureux de nous réunir. C'est le jour de la résurrection, le dimanche. Le Seigneur est ressuscité. Et on ne veut pas le dire seulement le jour de Pâques, on veut le dire tous les dimanches. Nous avons un Dieu vivant, l'Éternel est vivant. Ce matin, j'aimerais qu'on regarde quelques versets dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15. De temps en temps, j'aime relire et retrouver ce passage qui est tellement profond et tellement indispensable pour la vie chrétienne. Jean, chapitre 15. J'ai mis un peu de climatisation. Si vous avez froid, faites-moi signe. Et je vais lire donc le début du chapitre 15 de Jean. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ici, le Seigneur Jésus donne l'image de la vigne. Certainement, il se promenait quelque part près de Jérusalem et ils ont vu des vignes. Il y avait des vignes un peu partout en Israël. Et il leur a montré un sarment, un cep et un sarment, c'est-à-dire le tronc et les branches d'un pied de vigne. Et il leur a dit, voilà, ça c'est une image de la foi. Je suis le vrai cep et vous êtes les branches, vous êtes les sarments. Et ce matin, ma question c'est, quel est mon cep et quels sont mes fruits? Jésus dit, je suis le vrai cep. Donc il y avait des faux ceps. Dans la Bible, Israël, le peuple juif, est comparé souvent à une vigne. Et plusieurs fois, même Jésus, donne cette image de la vigne comme image du peuple juif, du peuple de Dieu. Et les chefs religieux, à l'époque de Jésus, enseignaient que le fait de naître juif, dans une des 12 tribus, faisait de vous un enfant de Dieu, faisait de vous un ami de Dieu. Et Jésus corrige cette erreur à plusieurs reprises. Ici, il dit, pour être vraiment un sarment, il faut être accroché au vrai cep. Et qui est le vrai cep? C'est le Messie, Jésus. Ce n'est pas parce que je suis né dans une famille chrétienne, dans une famille juive, dans une famille croyante en général, que moi, je suis automatiquement un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que mes parents sont comme ça, ce n'est pas parce que j'ai été baptisé bébé, que ça y est, je suis un enfant de Dieu. Il faut être connecté au cep et au vrai cep qui est le Messie. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce seul médiateur, c'est Jésus-Christ, homme. On peut dire, mais moi, j'ai de la religion, j'ai été baptisé, je vénère les saints, la Vierge, j'ai plein d'images à la maison et je prie. Vraiment, avec assiduité, ça ne fait pas de vous un sarment vivant. Parce qu'il y a un seul médiateur, ce ne sont pas les saints, ce n'est pas la Vierge, c'est Jésus-Christ. Il est le vrai cep. Vous dites, mais moi, je n'ai pas besoin de religion, j'ai ma propre philosophie. Et grâce à cette philosophie, j'essaye d'être bien avec les autres, j'essaye d'avoir une bonne vie, de faire tant bien que mal. Mais cette philosophie ne vous donne pas la vie. Pour avoir la vie, il faut être connecté, relié au cep. Une branche qui n'est pas reliée au tronc, qu'est-ce qui lui arrive? elle meurt. Bien sûr, les premières heures, ou même les premiers jours pour certaines, elle va avoir l'air vivante. C'est un peu hein, l'image des fleurs coupées que nous achetons chez le fleuriste. Vous achetez des belles fleurs coupées, elles sont magnifiques, parce qu'ils ont mis plein de produits pour les doper. Hein. Le dopage chez les fleuristes, c'est encore très présent. Et donc, elles sont toutes belles, et vous les mettez dans votre vase, vous dites, quelle jolie fleur, et c'est vrai, c'est beau à regarder, sauf qu'elles sont déjà mortes, car elles sont coupées. Et quand on ne connaît pas Dieu, quand on n'est pas relié au Seigneur, on est comme ça, on a l'air vivant, on vit, mais on est déjà mort spirituellement. Et c'est quelque chose de dramatique, d'avoir l'air vivant et d'être mort spirituellement, d'être coupé de la vie. La vraie vie, ce n'est pas la vie biologique seulement, la vraie vie, c'est la vie spirituelle. Il faut être attaché au cep, au vrai cep, qui est Jésus-Christ. Des fois, en tant que chrétien aussi, on a tendance à suivre des hommes. On dit, ah, ce grand pasteur, ce grand missionnaire, ce grand écrivain, ce grand ceci, ce grand cela, ou on va suivre un grand musicien ou un grand philosophe ou je ne sais pas. Mais attention, il n'y a qu'un seul vrai cep. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On peut avoir des modèles humains qui nous encouragent, bien sûr. Hein? Mais attention, le cep, celui qui nous donne la vie, qui doit être la source de notre vie, de notre foi, ça ne doit pas être un être humain comme les autres. Il n'y a que le Messie, Jésus, qui peut l'être. À quoi reconnaît-on une vraie branche d'une fausse branche dans ce passage, d'après vous? Une branche vivante, elle se reconnaît à quoi? À ses fruits. C'est tout simple. Hein? Jésus avait des images, prenait des images dans la nature qui sont d'une simplicité presque enfantine, mais avec une profondeur qui n'est plus enfantine. Hein? C'est les fruits qui révèlent où j'en suis dans la foi. Dans un autre évangile, en Matthieu chapitre 7, Jésus parle des faux prophètes et des faux docteurs et des faux croyants. Je vais lire quelques versets de Matthieu 7, verset 15. Une mise en garde, là encore. Jésus dit, Matthieu 7, 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Non. Cueille-t-on des figues sur des chardons? Non plus. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et plus loin, il dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, ne seront pas tous acceptés dans le royaume de Dieu. » Ce n'est pas juste de dire « Seigneur, Seigneur ». Il dit « Seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Un vrai croyant qui est attaché au cep, il porte du fruit. De la même façon qu'une branche attachée au cep va donner des beaux raisins, une branche qui n'est pas attachée au cep, elle ne va rien donner du tout. Ou si elle est attachée à des chardons ou à des épines, elle va donner des épines et des chardons, mais pas du raisin. Ce n'est pas la taille de la branche qui fait sa valeur. On pourrait dire, oh regarde, vraiment cette branche, elle est magnifique, elle est énorme, elle a l'air solide, mais peut-être cette branche est déjà morte, cette branche ne porte aucun fruit. Les branches de vigne hein, sont souvent assez courtes parce que les vignerons les émondent beaucoup, parce que plus elles sont émondées, plus elles donnent un fruit goûteux et abondant. Mais ce n'est pas l'apparence qui compte. Et là encore, chez les chrétiens, c'est pareil. Ce n'est pas parce que j'ai l'apparence d'être chrétien. Ceux qui sont nés avant les années 80, ils se souviennent de la publicité pour Canada Dry, hein, qui a le goût, qui a l'apparence, qui a l'odeur. Ce n'est pas parce que ça a le goût ou l'apparence que c'est vraiment du Canada Dry ou c'est vraiment telle ou telle boisson, hein, sans faire de publicité. Ce n'est pas l'apparence qui compte, c'est l'intérieur. Est-ce que je suis relié au cep? Est-ce que je ressemble aux chrétiens? J'ai le goût, J'ai la bonne Bible, je fais des prières correctes, je vais à l'église de temps en temps, j'ai été baptisé, j'ai fait ce qu'il fallait en apparence. Est-ce que c'est ça qui fait de moi un vrai sarment? Non. Ce qui va faire de moi un vrai sarment, c'est si j'ai du fruit ou non. Est-ce que j'ai du fruit? Jésus a dit, produisez, c'est Jean-Baptiste, pardon, a dit, produisez du fruit digne de la repentance. Si vous vous repentez, alors ça doit se voir. Il doit y avoir du fruit. Un changement de vie. Il doit y avoir une bouche qui loue le Seigneur. Il doit y avoir une sainteté de vie. J'ai lu l'exemple cette semaine de ce gars de la mafia qui s'était avancé lors d'une réunion, une grande réunion d'un évangéliste américain. Et donc, il avait fait un peu la une des médias parce qu'on dit, waouh, un mafieux qui devient chrétien, c'est pas tous les jours. Et quelques mois plus tard, dans un autre article, il dit, non, j'ai arrêté d'aller à l'église parce que finalement, j'ai compris que si j'avais Christ, je ne pouvais plus continuer d'aller avec mes copains et mes amis de la mafia. Alors, c'est pas possible, c'est trop dur. Donc cet homme, il pensait qu'il pouvait devenir chrétien et continuer ses activités mafieuses. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, hein, que être chrétien, en fait, c'est avoir une sorte de divinité tutélaire dans sa vie, hein, un Dieu qui va m'aider, qui va me bénir. Mais je peux continuer à mener ma vie dans le péché, hein, ça c'est pas grave. Du moment que Dieu est dans ma vie pour me protéger. Mais ce n'est pas ça la vraie foi. La vraie foi, c'est être connecté à la vie sainte de Dieu. Et ça donne une vie sainte en retour. Alors Dieu veut qu'on soit un bon sarment, un sarment accompli, qui porte du fruit. Pourquoi est-ce que Dieu nous a sauvés? Est-ce que vous êtes déjà demandé, vous qui croyez au Seigneur, pourquoi le Seigneur a pardonné mes péchés, pourquoi il a fait de moi son enfant, pourquoi il m'a donné son Saint-Esprit, dans quel but? Ici, Jésus l'a dit, pour qu'on porte du fruit et que Dieu soit glorifié, parce que nous sommes des témoins de la grâce de Dieu. Nous sommes des vignes ambulantes. Est-ce que nous avons nos grappes, nos belles grappes? Est-ce que les gens peuvent dire, oh, moi j'aimerais goûter de ce raisin? Il a l'air si beau, si juteux, si bon. Il n'y a pas trop de pépins, hein, c'est ça le problème des raisins, c'est les pépins. Un chrétien avec trop de pépins, il n'est pas très agréable à digérer, hein. Et le pépin, pas dans le sens des épreuves, mais je veux dire dans le sens des mauvais caractères, mauvaises attitudes, mauvaises paroles. On doit être un bon chrétien avec du bon raisin. Dieu nous sauve pour qu'on porte du fruit. Le fruit, c'est la gloire de la vigne. À quoi vous voyez une belle vigne? Ben, ce n'est pas juste parce qu'elle a des belles branches. Non, c'est quand il y a ce beau raisin dessus, on dit, ah, voilà une belle vigne, bien entretenue. Est-ce qu'on peut voir les fruits dans notre vie? Il y a plusieurs versets dans le Nouveau Testament qui parlent du fruit des chrétiens. Le plus connu, c'est Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité. Mais il y a aussi en Éphésiens 5, 9, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ça, c'est trois fruits encore, hein, du chrétien. Hébreux 13, 15, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. La louange, l'adoration est un fruit. Quand on a le Saint-Esprit, on a envie de louer le Seigneur. Quand j'étais athée, j'aimais déjà la musique, mais ce que je chantais était plutôt déprimant. Hein. Quand le Seigneur est entré dans ma vie, il a changé ma chanson, mes chansons. Et il m'a donné un chant nouveau, comme dit le psalmiste, hein, et j'avais envie de chanter les louanges de Dieu. Alors, quand vous êtes entouré d'amis athées, et que vous commencez à chanter les louanges de Dieu, ils vous disent, tu es tombé sur la tête, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu nous chantes là? Qu'est-ce que tu nous racontes? Je te loue Seigneur, je t'aime, tu es mon sauveur, mais c'est pas possible, tu as été pris dans une secte ou quoi? Ou qu'est-ce qui t'arrive? Mais moi, je ne faisais pas attention à toutes leurs remarques parce que j'étais dans la joie de mon salut. Et ce que je disais était sincère. Je ne répétais pas des paroles. Mais j'avais envie de dire au Seigneur, merci pour tout ce que tu me donnes, merci surtout pour ce salut, ce pardon de mes péchés. Il y a trop de chrétiens stériles qui ne portent pas de fruits. Si tous les chrétiens nés de nouveau portaient du fruit en abondance comme le Seigneur le veut, mais ça changerait notre ville et notre pays. Il y a trop de chrétiens endormis, inactifs, paresseux, spectateurs. On compte sur les missionnaires. On dit, ah, les missionnaires, allez-y, c'est à vous, Dieu vous a appelé, les pasteurs, allez. Mais moi, je vous regarde, parce que je ne suis pas pasteur ou missionnaire, je ne suis qu'un petit chrétien, qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose. Mais ça, c'est vraiment un mensonge du diable qu'il essaye de nous faire croire. Il ne faut pas le croire. Nous avons chacun des dons du Saint-Esprit, nous avons chacun des fruits que nous pouvons porter, et nous devons tous le faire. Je suis toujours frappé par les premiers chrétiens de Jérusalem. On peut dire que c'est la première génération de chrétiens transformés après les 12 apôtres. On les trouve en Actes 2, et il les décrit leur vie, leur nouvelle vie dans la foi. Si je lis à partir du verset 41, « Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. » Déjà, ils n'ont pas peur. Ils acceptent la parole, ils se font baptiser au nom du Seigneur devant tout le monde pour dire « Oui, je suis maintenant une nouvelle personne. » En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes en une journée. 3000 personnes se tournent vers Christ. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple parce qu'il y avait encore le temple à Jérusalem. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple et le fruit. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ils ont bouleversé la ville de Jérusalem. Comment? Par leur vie, par leurs fruits. Ils n'ont pas forcément tenu des réunions d'évangélisation tous les 4 matins. Ils ont simplement vécu leur foi tout le temps. Ils ont exprimé leur amour les uns pour les autres en partageant leurs biens. Quand il y avait quelqu'un de très pauvre, les plus riches vendaient quelque chose pour donner aux plus pauvres. À cette époque-là, il n'y avait évidemment pas de sécurité sociale, de chômage, d'assurance chômage. Et quand vous étiez veuve ou malade, vous n'aviez rien pour subsister. Il fallait mendier ou compter sur la famille. Et l'Église était là, les frères et sœurs étaient là pour soutenir ces veuves, ces orphelins, ces malades, ces handicapés qui ne pouvaient pas trouver de subsistance. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire que tous les jours, il y avait des gens qui venaient et qui étaient ajoutés à ce corps. L'Église, là, ce n'est pas le bâtiment. Il n'y avait pas de bâtiment. Ils allaient au temple de Jérusalem, au temple juif, parce qu'ils n'avaient pas encore de lieu à eux. Mais l'Église, là, c'est les croyants remplis du Saint-Esprit. Et Dieu ajoutait chaque jour de nouvelles personnes. Si nous étions vraiment en train de vivre notre foi, notre ville de Paris ou notre village où nous habitons, notre quartier serait sans doute plus touché. Parce que nous serions en train de témoigner de l'amour du Seigneur. J'ai été frappé après le massacre au Kenya de ces étudiants qui ont été massacrés parce qu'ils étaient chrétiens. Il y a une femme à la radio, kenyane, vous avez peut-être entendu parler de cela, qui a fait une déclaration, et une chrétienne qui a dit « Je veux pardonner à ces persécuteurs qui nous ont massacrés. » Elle a survécu, mais elle dit « Je veux pardonner. » Quand j'ai entendu ça, j'ai dit « Personnellement, je ne sais pas si je serais capable de dire ça. » Ni, ou de le faire encore moins. Quand vous avez été massacré par des gens sans foi ni loi, bien qu'ils disent qu'ils ont une foi, en Allah, quand vous avez été massacrés juste parce que vous êtes chrétien, quand ils les ont poursuivis dans les chambres pour les achever, ils leur demandaient, tu es chrétien ou tu es musulman? Je suis chrétien. Boum! Eh bien, cette femme, elle a eu la force de pardonner. Ça, c'est pour moi miraculeux. Ça ne vient pas des hommes, ça. Ça vient de Dieu dans son cœur. Cet amour-là, il n'existe qu'auprès de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a dit, tu dois prier pour tes persécuteurs, tu dois bénir tes ennemis. Ça n'existait nulle part ailleurs, ça. Quand il a déclaré ça, personne ne faisait ça. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, ça paraît fou de dire une chose pareille. Bénir mes ennemis, mais mes ennemis, je les maudis, je les haïs, je les hais, je veux leur destruction. Non, si je suis chrétien, je dois même bénir mes propres ennemis. Je dois prier pour eux. Jésus lui-même a donné l'exemple, quand on lui a enfoncé les clous, il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui a de la haine, de la vengeance dans son cœur. Il a cet amour divin. Ce n'est pas l'amour humain, c'est l'amour divin. Mais quand on manifeste cet amour, il y a des fruits, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Lorsque au travail, en voiture, dans la famille, on manifeste l'amour de Dieu, la bonté, la justice, la vérité. Au travail, on ne doit pas mentir. Le mensonge est tellement présent dans l'entreprise ou dans la société, le chrétien doit s'en séparer. Je ne participe pas au mensonge. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, le père du mensonge, c'est Satan. En mentant, je vais du côté de Satan. On peut dire, oui, mais des fois, t'es obligé... Quand tu es obligé. Quand tu es obligé. Il y a eu des cas extrêmes pendant l'occupation nazie, où des gens cachaient des juifs et quand on est venu les voir, ils ont dit non, je ne cache personne. Ils ont menti aux nazis pour qu'on ne vienne pas arrêter les gens qu'ils cachaient. Mais je ne parle pas de cas extrêmes comme ça. Je dis tous les jours, la vérité, la justice, d'être équitable, de ne pas faire de favoritisme, de se mettre à la place des autres. Ça, c'est quelque chose qu'on fait rarement aussi. Mettez-vous à la place de ceux qui sont en difficulté, de ceux qui souffrent ou de ceux qui sont peut-être méchants avec vous. Essayez de vous mettre dans leur peau et de prier pour eux. Ça, c'est l'amour de Dieu. Jésus a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, vous ne faites rien de plus que les païens. L'amour de Dieu doit être quelque chose d'autre. Mais d'où il vient cet amour? Il vient du cep. Il faut être attaché au cep. Qu'est-ce qu'on retient quand on vous connaît? Quand on vous croise? Quand on passe quelque temps avec vous? Qu'est-ce qu'on retient? Il faudrait faire un sondage auprès des gens qui nous entourent. Quelle est ma réputation? Qu'est-ce qui fait partie de ma personnalité? Est-ce que je suis un parfum de Christ? Ou ce qu'on retient, c'est, oh là là, mauvais caractère, langue de vipère, paresse, dissimulation, hypocrisie. Est-ce que c'est ça qu'on voit dans notre vie? Ou est-ce qu'on voit une justice, une droiture, un amour, un esprit patient, de tolérance, de grâce qui vient de Dieu? Ça ne veut pas dire être un béni oui-oui ou être un tapis sur lequel on s'essuie les pieds, mais ça veut dire être quelqu'un de vrai, d'authentique et qui ressemble à Jésus-Christ. Notre vie doit marquer les autres. C'est ça, porter du fruit. Et pas simplement parce qu'on va leur parler de Jésus, mais parce qu'on va vivre Jésus-Christ. Le sarment, il porte du fruit parce que la vie coule en lui. C'est naturel. Ça sort. Est-ce que ça sort de ma vie, l'amour de Christ, la joie de Christ, la justice de Christ, la sainteté de Christ? Est-ce que ça coule? Ou est-ce que ce qui coule, c'est moi, 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 mon ego, ma personne, mon orgueil? En tant que chrétien, on doit disparaître, comme disait Jean-Baptiste. Je dois diminuer et que le Seigneur croisse dans ma vie. Alors, quel est le secret d'un sarment qui porte du fruit? Eh bien, il y a une expression clé dans le passage de Jean 15. Là, c'est quoi l'expression qui revient, qui est la clé du passage? demeurez en moi, si quelqu'un demeure en moi et que je demeure en lui. » Il répète cela plusieurs fois. Demeurez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit rester dans la présence du Seigneur, dans la communion avec lui. Un peu comme Marthe et Marie, hein. Marie, elle écoutait le Seigneur à ses pieds et elle voulait rester le plus de temps possible dans sa présence. Et Marthe, elle se plaignait, hein. Elle ne pourrait pas m'aider au lieu de rester là. Et Jésus dit, mais elle a choisi la bonne part d'écouter le Seigneur, d'être près de lui. C'est ça le secret d'une vie fructueuse, de rester en communion. Mais qu'est-ce qui coupe la communion? Qu'est-ce qui empêche la sève de couler du cep jusqu'au sarment? Le péché, évidemment. Le péché. Chaque fois que je désobéis au Seigneur et au Saint-Esprit, la vie est coupée. Et ce que le Seigneur nous demande dans ces cas-là, c'est de demander pardon le plus vite possible. Seigneur, je renonce à ce péché. Je m'en éloigne. Purifie-moi. Et si on est retenté, et si on y revient, redemander pardon. Il dit, Seigneur, donne-moi de la haine pour ce péché. Parce que tant qu'on aime un péché, on n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est ça le problème. Tant qu'on le chérit quelque part au fond de soi, c'est ça notre lutte avec le péché, c'est que les péchés horribles, ah non, hors de ma vie, ça c'est facile, si on peut dire. Mais les péchés mignons, les péchés qu'on chérit, qu'on aime, ceux-là sont les plus difficiles à éradiquer. Et c'est ça qu'il faut remettre à Dieu. Seigneur, je te remets mes péchés mignons. Là où je chute à chaque fois, à chaque coup, boum, je suis sûr que je vais tomber. Et je le sais d'avance d'ailleurs. Je le sais parce que je n'ai pas cédé vraiment ce péché à toi. Et il faut céder le péché et dire, Seigneur, cette chose à laquelle je tiens, cette idole en fait, quelque part, je te la donne. Je la sacrifie sur l'autel. Seigneur, brûle-la complètement en holocauste. La rébellion aussi est un empêchement hein, à la vie de Christ en nous. Pour demeurer en Christ, il faut l'aimer, il faut être content dans sa présence. Mais si je suis en rébellion, si je dis « Ah non, Seigneur, ça, non, non !» Alors je me coupe avec lui. Hein. Il faut choisir, on ne peut pas avoir la vie et la communion avec Christ et en même temps la rébellion, l'orgueil, le péché. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Hein. Il faut choisir. Oui, mais moi, je ne veux pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Eh bien, tu choisis l'orgueil, la rébellion, choisis ça. Tu vas voir les fruits que tu vas porter. Ça va être quoi? Des chardons, des épines. Mais si tu choisis de demeurer, d'écouter le Seigneur, d'avoir l'humilité de dire, il sait mieux que moi ce dont j'ai besoin, là, tu vas voir les fruits dans ta vie. Il n'y a pas de secret mystérieux. Il n'y a pas des gens qui ont plus de fruits parce qu'ils sont plus bénis et moi je suis moins béni, moi j'aimerais avoir plus, mais je suis... Non. Le fruit est proportionnel à la communion avec le Seigneur. Plus je suis rempli du Seigneur, plus il y a des fruits. Plus je suis éloigné de lui, plus mes fruits se rabougrissent, deviennent, c'est même plus des raisins de Corinthe, hein, ça devient des petites pastilles là. Acide en plus, hein. Plus le raisin est petit, plus il est amer, acide. Non, il faut demeurer en Christ. Comment fait-on pour demeurer en Christ toute la journée? Mais dès le matin, on lui remet notre journée, on passe du temps avec lui, dans sa parole, dans la communion, dans la prière, au travail, pareil. Mais oui, mais je ne peux pas travailler et être dans la prière et lire la Bible, ce n'est pas possible, je dois être concentré sur mon travail. Tout à fait, mais tout en étant concentré, on peut prier pour que ce qu'on fasse soit bon. Voilà, Seigneur, ce travail est difficile là, aujourd'hui j'ai des problèmes, ou ce collègue est difficile, Seigneur, je te prie pour lui. Je te prie pour mes collègues, je puisse être un témoin de Christ, porter du fruit à mon travail, montrer la justice, la bonté dans mon travail, dans ma famille. Vous êtes invité à un repas de famille. Priez avant, Seigneur, je veux montrer la bonté de Christ auprès de ma famille, même s'ils sont imbuvables et exécrables. Peut-être que c'est moi aussi qui ai un problème. Il faut que je me remette en question aussi. Est-ce que je suis un parfum de Christ? Et Dieu dit, ces choses-là qui empêchent la communion, il faut les émonder. Et ça, c'est le vigneron qui fait ça. C'est le Père, hein. Il émonde ceux qui portent du fruit. Alors là, on dit, Seigneur, déjà, porter du fruit, c'est une chose, mais en plus, si tu m'émondes, alors si tu coupes tout ce qui dépasse, oui, Dieu coupe ce qui est du péché, ce qui est mauvais en nous, ce qui nous empêche justement de porter du fruit. C'est pour ça qu'il émonde. Il n'émonde pas le fruit. Dieu ne coupe pas les grappes qui sont là. Au contraire, il coupe la longueur de branches qui empêche la sève de couler correctement. Il enlève les branches qui ne devraient pas être là. Les péchés, les rébellions, les désobéissances, l'égoïsme, l'orgueil, la paresse. Le Seigneur veut émonder notre vie. Il faut le laisser faire. Seigneur, Saint-Esprit, émonde ma vie. Enlève ce qui cloche, ce qui m'empêche d'être vraiment rempli du Saint-Esprit, d'être rempli de fruits. Ce n'est pas une prière facile, mais quand on est sincère, on n'a pas peur de faire cette prière parce qu'on veut glorifier Dieu par le fruit. Le fruit est la gloire de la vigne. Le fruit dans ma vie sera la gloire du vigneron et de mon Père et de Christ. À moi de le laisser faire son travail, son œuvre en moi. Le vigneron, il contrôle tout quand même, hein. C'est lui qui veille, qui coupe, qui entretient, qui chérit, qui nourrit. Alors laissons-nous faire par le Seigneur. Et que chacun de nous ait une vie fructueuse partout où on est, pas simplement les pasteurs, les missionnaires, mais tout chrétien, même qui est tout nouveau dans la foi, on peut porter beaucoup de fruits et marquer notre pays et notre temps. Que le Seigneur nous aide à obéir à sa parole. On va chanter quelque chose avant la Sainte-Cène? Rédempteur adorable.